France Inter.
Le fil qui relie les personnes âgées à la vie est parfois très ténu. La visite d'un enfant, quelques mots échangés avec un voisin, le repas pris en commun, un petit tour dans le jardin sont autant de moments précieux qui, lorsqu'ils disparaissent, plongent les résidents dans la solitude vers ce glissement tant redouté. Après 5 semaines de confinement, le ministre de la Santé a donc annoncé hier soir un assouplissement des mesures en EHPAD. Les visites sont de nouveau autorisées à partir d'aujourd'hui, mais elles seront bien sûr très encadrées. Mode d'emploi avec Hélène Chevalier.
Les visites auront lieu sur rendez-vous. Elles se dérouleront à l'extérieur, si le temps le permet, ou dans une grande salle. Pas de contact physique, a bien précisé le ministre de la Santé hier. Les résidents et leurs familles se rencontreront à plusieurs mètres de distance et même derrière une vitre si l'EHPAD ou la région est particulièrement touchée par l'épidémie. Les professionnels travaillent depuis plusieurs jours à un protocole qu'ils ont proposé à Olivier Véran, Florence Arnaise-Maumet et la déléguée générale du SINERPA, syndicat représentant les maisons de retraite privées.
1-2 personnes maximum par visite, pas de mineurs pour l'instant, et puis un parcours de déambulation tracé au sol afin vraiment qu'on puisse mettre en place toutes les mesures barrières à l'entrée pendant la visite et à la sortie. Évidemment, un équipement des familles en masque et en surblouse, sur chaussures. Et puis, des visites cadrées à 30-45 minutes grand maximum.
C'est à chaque responsable d'EHPAD de décider avec son équipe et en fonction de la situation dans l'établissement, comment mettre en place ces rencontres. Mais les familles, comme les résidents, devront s'armer d'un peu de patience pour qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Les maisons de retraite ne pourront pas organiser plus de 4 ou 5 visites par jour.
La reprise des visites dans les établissements qui accueillent au total plus de 700 000 personnes âgées était donc l'annonce phare de la conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé hier soir. Pour le détail précis du début du déconfinement le 11 mai, il faudra encore attendre fin avril, début mai. Et en ce qui concerne la reprise des cours, Édouard Philippe a évoqué une rentrée par région ou par moitié de classe. Mais accueillir 15 élèves sur 30, par exemple, c'est bien sur le papier, mais en pratique, estime Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, c'est beaucoup plus compliqué.
Techniquement jouable, oui, mais est-ce une garantie ? Je le pense moins. Je prends mon exemple personnel, je dirige un établissement qui a un peu plus de 2000 élèves. Une semaine sur deux, la moitié des élèves, c'est 1000 élèves. Est-il raisonnable de faire rentrer ensemble avec les personnels qui vont avec 1000 élèves dès le 11 mai ? Ça me paraît absolument pas raisonnable, pour reprendre les propos du Premier ministre. Donc je pense qu'il ne faut pas se fixer de normes a priori là tout de suite. Il faut plutôt envisager ce qui est réalisable, réaliste et surtout raisonnable comme montée en charge. Je reviens à l'idée de progressivité, partir d'effectifs faibles, de petits groupes, s'assurer que les conditions sont réunies et puis au fur et à mesure monter en capacité si on s'aperçoit entre guillemets que les établissements tiennent la charge, c'est-à-dire que l'accroissement du nombre d'élèves et aussi forcément du nombre de personnels qui vont avec ne sont pas des caractères d'accélérateurs de l'épidémie.
Le propos recueilli par Philippe Lefebvre. Élément essentiel du déconfinement, le port d'un masque grand public qui sera probablement obligatoire dans les transports. La France va en produire 17 millions par semaine et de nombreuses villes se sont engagées à en fournir gratuitement un par habitant. C'est le cas notamment à Amiens, à Paris ou encore dans la région des Hauts-de-France. Et puis la politique des tests est désormais arrêtée. Toute personne présentant des signes du Covid-19 sera testée. En cas de résultat positif, c'est proche. Le seront aussi et les malades avérés seront accueillis dans des hôtels pour éviter la propagation du virus. L'objectif est de pouvoir tester 500 000 personnes par semaine. Le Covid-19 a tué 19 718 personnes en France, dont 395 au cours des dernières 24 heures. Mais pour la 11e journée consécutive, le nombre de malades en réanimation est en baisse. 5 744 patients étaient encore hier dans un état grave. Alors comment dans ces conditions envisager les vacances cet été, les mariages pourront-ils avoir lieu dans les semaines qui viennent ? Édouard Philippe a donné hier des éléments de réponse.
Est-ce que on peut réserver une maison ou une location, une place de camping ou un hôtel au mois de juillet ou au mois d'août, en France ou à l'étranger ? Je crains qu'il ne soit pas raisonnable d'imaginer de voyager loin à l'étranger très vite. D'abord parce que je ne suis pas sûr que le transport aérien pourra reprendre dans de bonnes conditions rapidement. Ensuite, parce que je ne suis pas certain que les conditions d'entrée ou de réentrée sur le territoire national ne soient pas assez exigeantes vis-à-vis de ceux qui arrivent de l'étranger. Et donc, ça me semble, à ce stade, peut-être encore un peu déraisonnable.
Édouard Philippe, qui a également plaidé pour la poursuite du télétravail au-delà du 11 mai, lorsque cela est possible. Pourtant, près d'un salarié sur deux en télétravail se déclare en situation de détresse psychologique. C'est le résultat d'une étude de l'Institut Opinionway que France Inter vous révèle en exclusivité ce matin. Rendez-vous dans le journal de 8 heures pour les détails de cette enquête. La Poste, de son côté, va passer de 3 à 4 tournées par semaine et 10 000 points de contact seront ouverts d'ici la fin du mois. Maxime Debs.
La direction a consulté en fin de semaine dernière les organisations syndicales et promet à ses clients un service, y compris le mardi désormais, en plus des mercredis, jeudis et vendredis jusqu'ici. Le directeur adjoint de La Poste, Nicolas Routier.
Ce que nous visons dès cette semaine, c'est une couverture la plus homogène possible du territoire, dans tous les départements, y compris dans les zones rurales. Le partenariat avec les maires étant très important pour ça.
On s'approche désormais d'un fonctionnement normal, assure La Poste, alors que côté syndicat, notamment à la CFDT, on parle d'une décision qui descend du siège, à laquelle les différents bureaux vont devoir s'adapter, bon gré mal gré. Pas sûr que le service puisse être rendu partout de la même façon. En tout cas, il le sera en toute sécurité, insiste la direction.
C'est aussi parce que nous avons totalement intégré ces mesures de sécurité, les gestes barrières, etc., les équipements, que nous pouvons maintenant remonter en puissance.
La Poste qui invite par ailleurs ses clients à se renseigner sur Internet quant aux différents services qui peuvent s'offrir à eux. Un système de livraison existe notamment qui vous permet d'envoyer un colis sans avoir à sortir de chez vous. Il vous suffit de le mettre dans votre boîte aux lettres, d'envoyer un mail à La Poste pour qu'un facteur vienne le chercher et le livre à votre place.
France Inter, 7h08, le déconfinement chez nos voisins européens, Agnès, avec la réouverture des magasins en Allemagne.
Les grandes surfaces de moins de 800 mètres carrés vont effectivement rouvrir leurs portes ce matin. En Norvège, ce sont les crèches qui accueillent de nouveau les plus petits. En Espagne, la morgue installée dans une patinoire de Madrid, l'image avait frappé les esprits, elle va être fermée après-demain. En Italie, quelques entreprises reprennent leur activité. Et puis en Grande-Bretagne, les agriculteurs manquent de bras en cette période de récolte des fraises et des asperges. La Roumanie refuse d'organiser des vols vers le Royaume-Uni, devenu l'un des principaux foyers du coronavirus. Et les agriculteurs ont peur de tout perdre. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter dans une ferme du Kent, Olivier Poujade.
40% de nos 80 hectares pourriront dans les champs si on ne parvient pas à recruter.
De père en fils depuis la Seconde Guerre mondiale, Edward et Matt Stanton récoltent des asperges dans leur ferme de Ramsgate. Avec eux, des travailleurs, une trentaine seulement, arrivés de Roumanie et de Bulgarie avant que le virus ne fiche tout le reste de la main-d'œuvre.
Les travailleurs qui sont déjà avec nous, ils sont sous contrôle dans la caravane. Est-ce qu'on reste avec ces 30-là ? Et personne n'attrapera le Covid. Ou alors, on fait rentrer du monde, tout le monde s'expose au virus, mais rien ne sera ramassé.
Plus de 30 000 personnes ont répondu à l'appel de l'Association des producteurs britanniques pour nourrir la nation, mais ces volontaires anglais ne sont pas formés. Toute la chaîne de production est ici réunie sur le même site, de la cueillette à l'emballage. Zara est une des rares à parler anglais.
I fear about myself.
J'ai peur pour moi.
It's risk.
Il y a un risque.
But we don't have money.
Mais on n'a pas d'argent.
We don't have choice.
On n'a pas le choix.
If you die,
si on doit mourir,
die.
On meurt.
Les partisans du Brexit avaient promis de barrer la route à ces travailleurs d'Europe de l'Est. L'épidémie de coronavirus démontre qu'ils sont ici très précieux. Ramsgate, Gilles Gallinaro, Olivier Poujade, France Inter.
Au Canada, le geste fou d'un quinquagénaire qui, au cours d'une terrible cavale, a tué au moins 16 personnes dans la province de Nouvelle-Écosse, sur la côte est du pays. L'homme a finalement été abattu par la police après une course-poursuite qui a duré 12 heures. On ignore encore les raisons de son geste. Le Canada, où la législation sur les armes est beaucoup plus stricte qu'aux États-Unis, n'avait pas connu une tuerie de cette ampleur depuis plus de 30 ans. Retour en France avec l'adaptation permanente des hôpitaux en fonction de la propagation du virus. Au centre hospitalier de Saintes en Charente-Maritime par exemple. Les services étaient préparés fin février à une arrivée massive de malades en réanimation qui n'a pas eu lieu. Reportage de Thibault Lefebvre.
Il y a aujourd'hui 6 patients atteints de Covid-19 en réanimation, mais aucune nouvelle admission depuis une dizaine de jours, alors que 16 lits sur 22 leur sont normalement dédiés. Le service du docteur Abdelhak Hakim s'est donc réorganisé pour pouvoir soigner tous les autres malades.
Étant donné que l'unité réservée aux patients non-Covid est saturée, et là on voit actuellement le retour des pathologies infectieuses, des pathologies cardiaques aussi, Donc on est obligé d'admettre des patients non Covid dans l'unité Covid.
Ouais, et tu élimines l'oxygène.
Avec désormais en réanimation, comme dans tous les autres services, deux voies d'admission séparées avec des locaux et des protocoles bien distincts. Anthony Delhomme est le chef de service des urgences.
Ça demande beaucoup, beaucoup d'investissements humains, d'investissements même financiers. Dans le temps, c'est pas tenable. On est prêt à durer la durée qu'il faudra.
Et la durée qu'il faudra, c'est dans la configuration actuelle, selon le directeur de l'établissement Fabrice Le Burg, entre 6 et 7 mois maximum.
On ne compte plus financièrement. Il faudra respecter cette différenciation, mais dans une unité de lieu, parce que c'est la division des lieux qui surconsomme les ressources humaines.
Et cette nouvelle organisation prendra fin, selon le directeur de l'hôpital, le jour où il existera un vaccin contre le Covid-19.
Reportage de Thibault Lefèvre et à lire sur franceinter.fr. Masque sur blouse, respirateur, de quels moyens la France dispose-t-elle vraiment? Enfin, il a été l'un des flamboyants interprètes de Cyrano de Bergerac, Jacques Weber, le comédien, aurait dû être en ce moment sur la scène du théâtre de l'Atelier à Paris pour jouer Crise de nerfs de Tchekhov. Alors pour patienter, il propose deux fois par semaine une vidéo Cyrano. Stéphane Capron.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse.
Jacques Weber connaît tout de Cyrano de Bergerac. Il a incarné le personnage plus de 500 fois en 83 sous la direction de Jérôme Savary. Il a lui-même mis en scène la pièce de Rostand à de nombreuses reprises.
Cyrano, c'est le héros français le plus connu, le plus reconnu et le plus aimé. Et je me suis dit qu'à partir du moment où j'étais pas le vieil acteur qui venait dans les bottes de son triomphe rejouer ses grands airs, c'était peut-être intéressant de proposer aux gens la suite de la conversation que j'ai pu avoir avec ce personnage.
Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Et puis, il y a des ponts entre les deux époques. À la fin du 19e, Rostand écrit sa pièce quasiment confinée.
Ça a été conçu dans une petite rue près du parc Monceau, où Rostand était totalement enfermé, solitaire, d'une sorte d'immeuble à une fenêtre. Et donc, il était là dans sa petite piole. C'était un type très palichon, très solitaire et très enfermé pour écrire ce grand bonhomme.
À la rentrée, Jacques Weber proposera sur scène, au public, son Cyrano de confinement.
Et les vidéos donc de cette création confinée sont à retrouver sur le site du Théâtre de l'Atelier.
Merci Agnès Soubiran et rendez-vous à 9h.